Voilà, je crois que les enfants sont déjà descendus et ils ont déjà rejoint leur groupe pour l'école de dimanche. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire maintenant. Et je vous invite donc à lire ensemble un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, une parabole racontée par notre Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 16, Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre, du nom de Lazare, gisait couvert d'ulcères au porche de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Au séjour des morts, comme il était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors, il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ses flammes. » Abraham lui répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur. Et maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. De plus, entre vous et nous, il a été déposé un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent pas le faire. » Et que de là non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche dit, « Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » L'autre reprit, non, non, Abraham, mon père. Mais si quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. Jusqu'ici, notre histoire est la fin de notre parabole. Quelle fin? Quelle fin voulons-nous? Sommes-nous de ceux qui prennent uniquement la vie présente à vivre le jour sans nous soucier de la vie qui vient après la mort, ou bien sommes-nous aussi habités par le souci de la vie à venir? Quelle fin voulons-nous avoir? Voulons-nous une fin comme celle de Lazare qui se retrouve dans le sein d'Abraham, ou bien voulons-nous finir dans les souffrances comme l'homme riche dans notre parabole? Cette parabole de Jésus attire l'attention sur la vie après la mort. Pour que? Pour tirer des décisions, pour tirer des conclusions pour notre vie présente de maintenant. Nous sommes invités à mener la vie présente à la lumière de la vie à venir. Nombreux les enseignements tirés de cette parabole dans l'histoire de la chrétienté. Des livres entiers sont consacrés à cette parabole. Mais ce matin, je voudrais juste souligner l'un des enseignements importants de cette parabole, à savoir, pour entrer dans le repos de Dieu, c'est maintenant, c'est dans cette vie, c'est maintenant qu'il faut écouter Moïse et les prophètes. C'est aujourd'hui qu'il faut écouter, recevoir la parole de Dieu, la Bible. Deux scènes sont clairement dépeintes dans cette parabole. La première se situe sur la terre avant la mort et la deuxième se situe dans l'au-delà après la mort. Dans ces deux scènes, nous avons la description de deux personnages avant et après la mort, l'homme riche et Lazare, le pauvre. Avant leur fin terrestre, les deux hommes mènent deux styles de vie complètement différents, complètement opposés. La seule chose qui les rapproche, qui rapproche ces deux hommes, c'est l'espace, puisque le deuxième se retrouve à la porte du premier. L'homme riche avait une vie centrée sur lui-même, sans se soucier des autres, même pas de Dieu, contrairement au pauvre nommé Lazare. Contrairement à Lazare aussi, cet homme riche n'a pas été nommé. Luc n'indique même pas son nom. Probablement, il y a là une volonté de la part de Jésus de faire allusion non pas à une personne précise, mais à un type de personne. Cet homme est présenté sous deux traits extérieurs qui manifestent ses richesses. D'abord, il s'habillait de pourpre et de linge fin. Le pourpre et le linge fin, ensemble, représentent à l'époque le luxe le plus extrême, à en croire certains spécialistes de cette époque. La richesse de cet homme se voit d'abord dans les habits somptueux qu'il porte, les habits qui manifestent sa gloire, les habits qui manifestent sa splendeur. Ensuite, sa richesse se manifeste aussi dans son train de vie. Il faisait chaque jour de brillants festins. Continuellement, cet homme faisait la fête et se réjouissait de la vie. À côté de lui, nous avons Lazare. Lazare à qui la description est deux fois plus longue, qui lui est consacrée, beaucoup plus, et deux fois plus longue que celle consacrée à l'homme riche. Tout comme pour l'homme riche, Lazare aussi est décrit sur deux aspects, deux volets de sa vie, sur ses apparences, notamment ses habits, et sur aussi sa nourriture quotidienne. Si le riche est couvert d'habits somptueux, Lazare, lui, est couvert d'ulcères. L'homme riche n'est jamais venu à la rencontre de Lazare, bien que celui-ci gît à ses portes, donc couche à sa porte. Et dans la scène, il y a une image terrible. Ce sont les chiens qui sont devenus beaucoup plus sensibles à Lazare, au point de venir lécher ses ulcères, alors que notre homme riche, qui sortait jour après jour de sa porte, n'était même pas sensible à Lazare, à la situation de Lazare qui était couvert d'ulcères. Si le riche se permet quotidiennement de brillants festins, Lazare, quant à lui, guette ce qui est tombé de la table du riche. Lazare convoite les déchets du riche sans pouvoir les obtenir. Derrière le nom de Lazare, certains voient Lazare, le frère de Marthe et Marie, que Jésus a ressuscité dans l'évangile de Jean. Mais cela est peu vraisemblable, parce que Lazare avait une demeure. Lazare, en tout cas de l'évangile de Jean, a une demeure. Et il est bien entouré aussi par sa famille, par les habitants de son village, et ainsi de suite. Ce qu'il faut peut-être retenir de ce nom de Lazare, c'est le fait que ce nom provient d'un mot en hébreu, Eliezer, qui veut tout simplement, peut vouloir dire « Dieu est mon aide ». En tout cas, la description de l'homme riche, la description de Lazare, fait ressortir d'une manière claire, symétrique, l'opposition de leur mode de vie. Pour l'un, c'est la jouissance et l'abondance. Pour l'autre, c'est la souffrance et le manque total. Aussi bien l'homme riche que le pauvre, Lazare, vont tous les deux connaître une fin inéluctable. C'est la mort. Le jour de la mort est arrivé. Pour rendre les choses irréversibles, aucun changement n'est plus possible. C'est trop tard, c'est le point de non-retour. Aucune action dans le monde des vivants n'est possible pour un mort. La destinée des deux protagonistes est différente. D'abord, c'est le pauvre qui meurt et fut emporté par les anges au sein d'Abraham. Et dans la littérature rabbinique, il est question souvent des anges qui viennent accueillir, recueillir les âmes des justes pour les transporter dans un lieu où elles vont se reposer. Jésus parle ici du sein d'Abraham. C'est un lieu où Lazare jouit de la proximité et de la présence de Dieu. Et c'est Calvin qui écrit dans l'un de ses commentaires que être porté par les anges au sein d'Abraham après la mort est une félicité la plus désirable et que d'avoir tous les royaumes de ce monde. Le riche aussi n'a pas échappé à la mort, mais la seule chose mentionnée le concernant, c'est le fait qu'il fût enterré. Vu qu'il était riche, il a eu probablement droit à un cortège funèbre important. Mais hélas, il n'a pas eu droit comme Lazare au cortège des anges pour le transporter dans le sein d'Abraham. Nous pouvons noter au passage aussi bien le pauvre que le riche. Ni la pauvreté ni la richesse ne fait reculer la mort. Le riche et le pauvre passeront par cette étape tôt ou tard, à moins que, bien sûr, le Seigneur revienne. Après la mort, c'est le retournement de la situation. Pour l'homme riche, c'est le début d'une phase dure et difficile. Pour le pauvre, c'est une phase de repos, de joie qui commence. Celui qui jouissait des richesses de ce monde s'est retrouvé dans le manque de tout. Celui qui n'avait presque rien dans sa vie terrestre s'est retrouvé comblé du bonheur de joie au sein d'Abraham. Le riche se retrouve maintenant au séjour des morts, un lieu où il est question des tourments, un lieu où il est question des flammes de feu, sans parler bien sûr du manque d'eau dont il est question dans la parabole. Dans son besoin, cet homme va faire une découverte, celle qui consiste à dire que finalement celui qui est dans l'abondance peut venir en aide à celui qui est dans le besoin. Et il formule cette découverte d'une manière admirable, dans une belle prière pour Abraham. « Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. » C'est dommage. C'est dommage que cette découverte vienne si tardivement. C'est dommage qu'elle soit arrivée un peu tard. Elle aurait dû la faire lorsque Lazare était dans le besoin et lui était dans l'abondance. Lorsque Lazare cherchait le secours et être secouru. Contrairement aux riches qui pouvaient secourir Lazare sur la vie terrestre, Lazare ne peut pas venir en aide à cet homme riche à cause du grand abîme qui les sépare et qui empêche tout passage entre les deux lieux, le sein d'Abraham et le séjour des morts. En plus, Abraham invite cet homme riche à se souvenir de sa vie terrestre lorsqu'il avait négligé complètement ce principe de solidarité, ce besoin, celui qui est dans l'abondance, venir à celui qui est dans le besoin. Comme cette première prière ne trouve pas l'exaucement, l'homme riche formulera une deuxième prière, non pas pour lui, puisqu'il a compris visiblement que c'est trop tard, mais en faveur de ses frères, pour leur éviter les tourments dans lesquels ils se retrouvent. Comment comprendre cette prière pour ses frères? Est-ce qu'il a vraiment compris et il veut éviter cela à ses frères? Ou bien est-ce que c'est une façon pour lui de dire que finalement les moyens déployés jusqu'ici par Dieu pour le conduire, pour l'appeler à la repentance, ne sont pas si efficaces que ceux-là? Et par là, il laisse entendre que sous le couvercle donc de la prière de ses frères, que finalement ce n'est pas de sa faute s'il se retrouve encore dans ce lieu parce qu'il a été mal averti, parce qu'il ne sait pas autrement, s'il avait été bien averti, autrement s'il y avait quelqu'un qui est revenu de la mort éventuellement, il aurait pu peut-être se repentir. Abraham a mis fin à ses excuses sans fondement en lui disant « Ils ont Moïse ». Les prophètes qui les écoutent. En d'autres termes, Abraham est en train de lui dire, mais tu connaissais la loi et les prophètes, c'est-à-dire tu connaissais la parole de Dieu, et tu n'avais qu'à écouter et obéir. Mais notre homme persiste dans sa justification, contredisant carrément celui qui l'appelle Père, mon nom Abraham, ose-t-il dire ? Au verset 30, Abraham lui redit la même chose. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message que celui de la parole de Dieu pour la conversion. Cela est valable pour le riche, c'est aussi valable pour ses frères et c'est valable pour tous. C'est sur cette réponse, c'est une réponse sans appel, que notre parabole s'achève en nous laissant bien des enseignements à nous, les vivants, qui pouvons encore faire des choix, prendre des décisions qui peuvent changer la suite de notre destinée, la suite de notre histoire. Avant d'aborder l'enseignement principal de cette parabole, j'aimerais d'abord écarter une idée très répandue dans l'histoire de la chrétienté sur la base de cette parabole. Cette idée consiste à dire le riche est condamné pour sa richesse, le pauvre est récompensé pour sa pauvreté. Ce raisonnement de renversement de situation post-mortem a fait supporter des pires misères à certaines personnes qui se persuadent d'une récompense et d'un exaucement ultime où ceux qui ont souffert dans ce monde seront honorés et ceux qui sont honorés dans ce monde seront humiliés. Il nous faut remarquer dans cette parabole que dans cette parabole, Lazare n'entre pas dans le sein d'Abraham grâce à sa pauvreté, ni l'homme riche d'ailleurs, à cause de sa richesse. D'ailleurs, il faut remarquer qu'aucune mention de la religiosité de Lazare n'est mentionnée, sinon, bien sûr, le nom qu'il porte, Dieu est mon aide ou Dieu aide. Il n'est pas mentionné non plus de l'immoralité de cet homme riche. Rien dans le texte ne dit, il laisse entendre que l'homme riche se livre à la débauche, ni d'ailleurs à aucune autre forme de méchanceté. Souvent, vous savez, cette parabole est qualifiée par le riche débauché, le riche, le mauvais riche. Mais en fait, ce n'est pas du tout justifié d'appeler cet homme riche de mauvais et encore moins de débauché. En tout cas, le texte ne le dit pas. Le texte dit qu'il est riche. Mais en disant cela, il nous faut rester, me semble-t-il, attentif au contexte dans lequel cette parabole de Jésus vient dans l'évangile de Luc. En fait, Luc est le seul à rapporter cette parabole et il la place dans un chapitre qu'il consacre à l'enseignement de Jésus sur l'argent. Juste avant notre parabole, au verset 13, Jésus a indiqué que personne ne peut servir Dieu, particulièrement pour les personnes qui sont dans le besoin. C'est Luc au chapitre 14, par exemple. Riche de notre parabole, au point, il aimait tellement l'argent au point qu'il devienne aveugle, au point même de ne voir personne, même pas Lazare, qui se couche à sa porte, peut comprendre assez bien aussi aux reproches adressés par Jésus aux pharisiens pour leur amour de l'argent dans les versets 14 et 15, juste avant notre parabole que je vous ai lue tout à l'heure. Donc, ce que Jésus condamne ici, c'est la richesse qui rend aveugle au point de ne pas voir son prochain, au point de ne pas voir toutes ces personnes dans le besoin qui attendent le secours. Ce n'est pas donc la richesse comme telle qui est condamnée par Jésus, tout comme la pauvreté n'est pas aussi exaltée par Jésus comme telle. Il y a beaucoup de personnes dans l'histoire de l'Église et encore dans notre histoire aujourd'hui que Dieu a bénies et qui sont venues en aide et qui soutiennent l'œuvre de Dieu partout dans le monde. Jésus lui-même a bénéficié de ce secours, les apôtres ont bénéficié de ce secours et l'Église lui a bénéficié de soutien de personnes généreuses qui ont pu mettre leur richesse pour le service de Dieu. Ce n'est pas la richesse comme telle. Et en plus, une autre idée logique, si on veut aider ceux qui sont dans le besoin, il faut qu'il y ait des gens qui en ont de quoi à donner. Sinon, nous avons des difficultés à aider ceux qui sont dans le besoin. Donc ce n'est pas la richesse comme telle. Et la pauvreté n'est pas plus exaltée comme telle. Et il me semble sur ce sujet, nous devons entendre la prière d'Agur dans le livre des Proverbes au chapitre 30, qui dit « Seigneur, je te demande deux choses, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre, car dans l'abondance je pourrais te renier qui est le Seigneur. » Ou bien, pressé par la misère aussi, je pourrais me mettre à voler et déshonorer mon Dieu. Recevons cette prière pour nous aussi, pour que le Seigneur nous garde de tout excès, sachant que le Seigneur accorde aussi à certains un don d'accompagner et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Ce qui est condamné dans notre parabole d'une manière très claire, c'est la surdité à la parole de Dieu. C'est la surdité de l'homme riche à la parole de Dieu. Les versets 27 et 31 de notre parabole donnent la clé pour comprendre le pourquoi de ces deux destinées, celle de l'homme riche et celle de l'art. Deux destinées diamétralement opposées. C'est l'écoute de la parole de Dieu et la fin s'en a. L'homme riche a continué à négocier jusqu'au bout. Il ne veut pas se laisser convaincre par la parole de Dieu et se repentir. Et probablement, il se dit de son vivant, « Je veux profiter de la vie. Ensuite, je réfléchirai éventuellement à la question de Dieu. » Cette attitude rappelle de l'homme riche qui voulait des richesses pour assurer sa vie égoïste. Mais Dieu lui dit, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ?» C'est dans Luc au chapitre 12. Tout comme ce pauvre fou, le riche de notre parabole est surpris par la mort. Elle ne l'a pas averti par son passage. Elle vient comme elle a l'habitude de le faire, sans prévenir. C'est ainsi que l'homme se trouve dans l'incapacité de changer quoi que ce soit à sa destinée. La mort est passée par là, les choses sont figées pour lui. Aucun changement n'est possible, c'est trop tard. Mon tour vient d'être franchi par cet homme. Il aurait fallu écouter Moïse avant ce passage, parce qu'après, ce n'est plus possible, tout simplement. Nombre dans notre société, hélas, ceux qui remettent la question de Dieu au lendemain, pensant qu'ils ont du temps, que ce n'est pas une question essentielle pour le moment, ou tout simplement, ils veulent profiter, entre guillemets, s'éclater de la vie. Mais j'aimerais attirer notre attention sur deux femmes qui peuvent s'inviter à n'importe quel moment dans la vie de n'importe qui. Personne n'est à l'abri, aussi bien riche que le pauvre d'ailleurs. La première, c'est notre fin à chacun. Personne ne peut dire qu'il va continuer à vivre dans la seconde qui suit. Maladie, des accidents de la vie, et ainsi de suite. Mettre fin à une vie d'une manière soudaine, d'une manière inattendue. Donc, inutile, à mon sens, d'attendre pour chercher. Il faut commencer dès possible à réfléchir sérieusement sur cette question, car c'est une question qui engage non seulement notre présent, notre vie maintenant, mais également notre avenir, notre éternité. La deuxième fin qui peut venir à tout moment, c'est celle qui sera marquée par notre Seigneur Jésus-Christ. Là aussi, le Seigneur peut revenir au jour de, ou un jour, peut venir à n'importe quel moment, pour le jour de rassemblement et le jour du jugement dernier, où ce ne sera plus le temps de salut, parce que c'est maintenant le temps de salut, mais ce sera le temps de jugement, le temps des comptes. Donc il faut prendre des décisions maintenant. Bien commencer à réfléchir dès maintenant. Après, il faut respecter les parcours de chacun. Certains, ils ont besoin de réfléchir des années, et Dieu est patient avec nous. Il n'y a aucun problème pour cela. Prendre le temps de réfléchir, de chercher. Mais il me semble, c'est entre guillemets, mais sans se figurer en sens propre, c'est suicidaire de se dire la question de Dieu ne me concerne pas ou bien je la verrai à la fin de ma vie. Voilà pourquoi il me semble, chers amis, que c'est plus qu'urgent de commencer à rechercher, à chercher Dieu, à chercher à comprendre, à régler cette histoire, cette question avec Dieu. Et bien sûr, si vous vous engagez dans cette entreprise, nous sommes bien à votre disposition et nous serions heureux de vous accompagner dans vos recherches. Écoutez la parole de Dieu, puisque c'est elle qu'il faut écouter avant que ce soit trop tard. Le premier enseignement que je vous propose de retenir s'articule autour de la notion de point non-retour. Je cite les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, bien connu. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Ceux qui acceptent le salut, offert gratuitement par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, reçoivent comme Lazare la vie éternelle, reçoivent le repos de Dieu dès présent et pour toujours. Ils sont sauvés. Mais ceux qui refusent d'entendre ce message de salut, qui refusent de croire en ce Sauveur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Celui qui refuse de croire pour un risque réel de suivre le même chemin et d'avoir la même destinée que le riche de nos paraboles. À chacun donc de bien réfléchir sur cette question avant que ce soit trop tard. Le deuxième enseignement que je vous propose de retenir, c'est le fait que Dieu nous donne comme prochain les pauvres, miséreux, de façon toute particulière. Ce sont des candidats privilégiés pour nos soins et pour notre sollicitude. En effet, dans la parabole, aucun reproche explicite n'est fait pour le riche à cause de sa richesse. C'est débauche ni pour quoi que ce soit. Mais comment ne pas voir un reproche implicite dans le tableau de Lazare couvert d'ulcères couché à la porte de ce riche sans que celui-ci fasse quoi que ce soit, sans que celui-ci lui apporte le moindre secours? Comment ne pas voir ici, dans ce plat, un reproche implicite? Vivre dans une abondance effrénée alors que son voisin est dans le besoin extrême, sans réagir, est tout simplement une manière de se condamner soi-même. Si lors de notre parabole a écouté Moïse et les prophètes, il aurait certainement entendu tous ces messages qui parlent de la compassion particulière de Dieu pour ceux qui sont dans le besoin et tout particulièrement les pauvres. Aussi, il aurait certainement aussi la responsabilité de ceux qui peuvent venir en aide des personnes qui sont dans le besoin. Il aurait aussi entendu ce message dans la loi et les prophètes. Dans l'un, c'est-à-dire les premiers livres de la Bible, nombreuses lois consacrées à la protection du pauvre. Par exemple, Deutéronome 15, 5, il stipule même qu'il ne devrait pas y avoir de pauvres. Personne ne doit profiter du pauvre. Le pauvre doit être payé chaque jour pour aggraver sa situation, sa misère. Les lois, il y a aussi des lois qui garantissent la sécurité aux pauvres. Ne pas exiger des intérêts lorsqu'on donne aux pauvres, et ainsi de suite. Et il est stipulé que lors de l'année, il y a de la remise des dettes à la septième année, à chaque année, il y a une remise des dettes pour les pauvres, et ainsi de suite. Nombreuses les lois qui vont dans le sens de protéger le pauvre et aussi d'encourager ceux qui les entourent à prendre soin d'eux. Dieu promet même des bénédictions pour ceux qui témoignent de la compassion et de la bonté pour les pauvres, pour ceux qui sont dans le besoin. Le Seigneur dit que leur trône sera en sécurité, leur justice demeurera à jour, c'est le psaume 112. Dieu répond à leurs prières parce qu'ils ont le souci du pauvre et de ceux qui sont dans le besoin. Ils auront un trésor dans les cieux, dit Jésus, dans l'évangile de Matthieu, ou bien dans Luc 12, avant notre parabole. Et enfin, Dieu lui-même se présente dans l'Écriture le refuge des pauvres. Il se présente le libérateur des pauvres, le protecteur des pauvres. C'est lui qui leur apporte l'aide dont ils ont besoin. Et c'est lui aussi qui pourvoit leurs besoins. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous laisser aveugler par quoi que ce soit au point de ne pas voir le prochain que Dieu place sur notre chemin, lui apporter le soutien dont il a besoin, selon bien entendu nos capacités. Cette responsabilité vis-à-vis des personnes dont le besoin est une responsabilité individuelle et aussi une responsabilité collective. Nous réjouissons pour ce que nous venons de vivre vendredi et samedi dernier à la collecte de la Banque alimentaire. Sur la chaîne nationale, il y a une collecte qui s'est mobilisée pour venir au soutien, en aide pour ceux qui sont dans le besoin. Notre Église a pris part et c'était une belle action qui permettra d'accompagner une cinquantaine de familles, voire plus, dans notre quartier pendant l'année pour les aider. Et tout ce travail effectué par Tuniki, des frères et sœurs, sous la direction de Joseph, Luzi, Daniel, nous pouvons que nous réjouir. Grâce aussi à ces denrées alimentaires, bientôt, en fait, bientôt c'est samedi, il y aura aussi la reprise des repas chauds, les samedis matins, pour ceux qui sont dans le besoin. Et là, avec le concours de notre frère Jude Ventura et de l'équipe qui l'entoure. C'est notre responsabilité d'Église de mener aussi des actions concrètes en faveur des personnes qui sont dans le besoin. Mais je disais aussi, c'est une responsabilité individuelle. Ce n'est pas parce que l'Église est engagée de nous dire « L'Église fait cela, donc moi, je peux me sentir ne pas concerné, loin de là. » Nous devons continuer à nous sentir concernés par le besoin des personnes qui sont autour de nous. Bien sûr, il n'est pas question, nous, de répondre à tous les besoins, parce que de toute manière, nous ne pourrions pas, c'est simple, mais de faire ce que nous pouvons, où nous sommes. Si je reste sur le registre de l'Église, mon frère Jude disait toujours qu'il a besoin, il a toujours besoin de frères ou des sœurs cuisine qui peuvent les aider dans cela, qui commencent à partir de samedi. Donc là, si vous voulez contribuer aussi dans une action concrète au cours de cette année, tous les samedis matins, enfin midi, pour aider notre frère Jude, il sera très heureux d'avoir votre concours. N'hésitez pas à y aller voir. Si quelqu'un veut aider pour la collecte, pour la distribution des colis alimentaires qui se font les mercredis, notre frère Joseph serait très heureux de vous accueillir et de vous faire place dans ce service-là. Si vous ne savez pas qui est Joseph et qui est Jude, tout à l'heure, soit ils se présenteront. Sinon, venez nous voir et nous vous orienterons sans difficulté. Mais ce que je veux laisser, c'est de nous sentir responsables face à la pauvreté, à ceux qui sont dans le besoin autour de nous. C'est pour cela, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite à l'accueillir, nous invite à la recevoir et à la se traduire par des actes concrets pour ne pas être des auditeurs oublieux, comme recommande l'apôtre Jacques. Ne comptez pas dicter la parole de Dieu, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole de Dieu sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son visage, et après s'être ainsi observé, il s'en va et il oublie ce qu'il est. Nous invités, frères et sœurs, nous croyons qui avons compris, qui avons reçu le Seigneur Jésus, à traduire ce que la parole de Dieu nous invite à faire par des actes concrets, aussi bien dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec Dieu, dans notre relation avec les autres, et aussi que dans notre engagement aussi social et concret. Quant à vous, amis peut-être de passage parmi nous, j'aimerais vous laisser une part de Jésus lui-même pour vous. À vrai dire, c'est une invitation pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile. Je vous dis, venez à moi. Venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug va la porter, ma charge est légère. Venez à moi. C'est l'invitation que Jésus vous adresse aujourd'hui, qu'il a adressé tout au long du siècle, qu'il adresse encore aujourd'hui, pour recevoir le repos qu'il offre, qu'il donne gratuitement. Et ce repos-là, décision-là, c'est vous uniquement qui pouvez la prendre, recevoir et accueillir le repos de notre Seigneur. Que le Seigneur donc nous aide tous, aide chacun d'entre nous à répondre favorablement à sa parole. Aider chrétiens à ne pas être des auditeurs oublieux et ceux qui ne le sont pas encore, à répondre favorablement à cette belle invitation de notre Seigneur. Amen.